à l'écoute. Une série documentaire en 4 épisodes, écrite par Nolwenn Thivo. La musique et la réalisation sont signées Tony Ayer. Épisode 2.
C'est quelqu'un qui se sent concerné. Et puis cette capacité à une écoute très profonde, une présence réelle. Comme souvent un choc que les gens reçoivent quand quelque chose s'entame avec lui.
Dans l'épisode précédent, je vous parle d'un psychiatre-psychanalyste particulier dont j'ai fait la rencontre. Il s'appelle Lucien Coq. C'est un chercheur qui collabore avec des confrères et des consoeurs. Il propose de travailler à plusieurs autour d'un ou d'une patiente dans une approche participative. Je l'ai invité à revisiter sa pratique pour qu'il puisse expliquer comment il a forgé son écoute tout au long de sa carrière. Il a rencontré le docteur Liliane Mittelmann, car elle avait besoin d'un regard externe à propos de quelques patients. Elle me reçoit dans son cabinet.
Son adresse m'avait été donnée pour un ami que j'avais qui était en grande difficulté. Je l'avais adressé effectivement à Lucien Coq. Et il y a eu une sorte de bascule dans sa position de cet ami par rapport à des idées suicidaires, enfin, c'était très, très très lourd, qui m'a beaucoup interpellée dans ce qu'il m'a restitué de cette séance. Et puis, je lui ai adressé d'autres personnes. J'étais moi-même en travail avec quelqu'un donc, qui m'avait donné son nom. Les retours que j'avais me donnaient chaque fois une image un peu différente de lui. Il m'intéressait déjà et j'étais très curieuse de le rencontrer. Et donc, je suis allée le voir pour un travail qu'on appelle de supervision, de contrôle, pour parler de mes cas, de situations difficiles. Et c'est comme ça que ça a commencé par un travail de supervision. Et puis, peu à peu, ça s'est transformé en une collaboration étroite, amitié et beaucoup d'échanges.
Et j'imagine que c'est pas en 2 minutes qu'on passe en fait d'un statut où il y a de la supervision, donc il y a quelque chose de hiérarchique, et qu'on glisse comme ça vers l'amitié. Reste toujours un référent, un superviseur, ou pas du tout?
Ça reste un référent parce que effectivement il a une grande capacité de théoriser, de faire passer beaucoup de choses. Mais, vous savez, quand on est en supervision, en contrôle, on parle aussi de soi. Hein. C'est quelqu'un qui se sentait concerné par ce qu'on amenait. Et puis, cette capacité à une écoute très profonde, une présence réelle, qui peut être très déroutante, à prendre des choses sous un autre angle, à renvoyer autre chose, à désarçonner. Comme souvent un choc que les gens reçoivent quand quelque chose s'entame avec lui. Et il y a eu quand même beaucoup de collaboration, de réflexion sur comment innover la pratique par rapport à l'évolution des gens et de leurs besoins, par rapport à des situations de coinçage, de détresse très forte, dans la réalité ou d'impasse mentale. On a fait ça avec quelques autres personnes, c'était intéressant. Et très souvent productif, et ça remet en mouvement, en vie. Parce qu'il peut s'installer un certain confort aussi dans une thérapie qui dure, on se voit, on se connaît bien depuis longtemps, et ça peut être un piège aussi.
Dans sa pratique, Liliane intègre parfois l'hypnose ericksonienne. Elle m'explique comment et pourquoi elle y a parfois recours.
Donc une séance d'hypnose demande de s'installer, de se mettre à l'aise, de prendre le temps de se poser, de poser sa respiration, de façon à sortir du brouhaha de la rue, de la vie, du chaos, des événements, et de se mettre comme dans un autre espace-temps. Comme si le temps allait maintenant s'élargir et devenir illimité. Donc j'invite la personne à approfondir sa respiration, installer une tranquillité, observer les endroits de tension, celles qui ne relâchent pas, et de se mettre en observation de ce qui se passe. La personne, je vais l'inviter à choisir ce qu'elle a envie de traiter. Je vais trouver des images qui me viendront en fait par la personne. C'est toujours un peu une sorte de pari. Je me dis, est-ce que je vais trouver aujourd'hui? Mais ça vient.
Ça vient.
Donc en sollicitant les différents organes des sens, l'odorat, la vue, l'écoute, le toucher, tout ça va éveiller certaines mémoires corporelles, de souvenirs. Et je lui demande de m'informer aussi de comment ça se passe par un petit geste. Et je parle aussi de plus doucement, plus lentement. Je me mets moi-même dans un état un peu hypnotique. Puis à un moment donné, une image va surgir. On revient ensuite, en prenant vraiment le temps, une bonne heure. Puis un moment de restitution, la personne va parler de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a retenu, de ce qui lui est arrivé. En général, il y a effectivement cette impression d'avoir quelque chose en main chez la personne quand elle part. Et souvent, les gens disent « je pars avec ça » et me remercient. Beaucoup plus qu'une séance, ils le vivent comme un don. Et je pense que ça mobilise quelque chose de l'ordre du don. Et que c'est... Il faut aussi en avoir envie. On ne peut pas faire comme ça de l'hypnose à n'importe quand, à n'importe qui.
En fait, je ne peux que constater où la mène son écoute. Pourrait-on dire que c'est ce qui lui dicte sa propre disponibilité ?
Quand j'écoute, je ne fais pas qu'écouter. Je me mets dans un état de disponibilité. Je regarde aussi. Je regarde les mouvements de la personne, volontaire ou pas, sa façon de se présenter, ce qui se dégage aussi de sa présence, de son rythme de parole. J'écoute en moi aussi. Si je garde mon propre rythme ou si quelque chose s'emballe ou quelque chose se défend, se tend. Donc il y a toute cette écoute sensible à la fois de l'autre et de ce qui se passe en moi à ce moment-là. J'essaye de me mettre à l'aise, de ne pas me laisser figer ou coincer par quelque chose qui peut être parfois un peu raide chez l'autre. J'essaye de me faire une sorte de paysage de son environnement, de ce qui est aussi autour de la personne, de ce qui constitue son entourage. Et je suis assez sensible aussi aux inflexions de voix. J'aime beaucoup la musique. La tonalité et le rythme, c'est quelque chose à quoi je suis très sensible. Il m'arrive quand les gens arrivent complètement stressés, en panique, ça m'est arrivé encore tout à l'heure, de devoir passer un temps à demander à la personne de se calmer, de prendre le temps, qu'elle ne pourra pas tout me dire, mais que ce qu'elle me dira aura sa qualité. Donc c'est à la fois cette ouverture et disponibilité, cette réception, et en même temps, assez vite, j'essaye de situer là où je peux mobiliser quelque chose en moi pour renvoyer quelque chose à la personne, un message, quelque chose de ce qu'elle m'envoie, de ce qu'elle m'adresse, pour qu'elle ait un retour qui peut être aussi minime soit-il, mais pour ne pas être que dans la réception, justement. Donc l'écoute, c'est pas qu'avec les oreilles, c'est vraiment tout mon être. Et parfois, il y a aussi l'écoute dans le silence. Il y a aussi des moments de silence qui ont une certaine qualité et qu'il faut respecter par moments, et à d'autres moments, il faut pouvoir permettre à la personne d'en sortir. Et puis l'écoute, elle se prolonge. Ça ne dure pas que le temps de la séance. Il y a parfois des choses qui viennent dans la journée ou dans la nuit, à propos de ce que vous avez entendu, que vous ne saviez peut-être même pas que vous aviez entendu. Donc ça nous travaille en dehors des moments de consultation. Comme une réécoute. Et moi, je pense que le travail qu'on peut faire après les séances, moi j'écris beaucoup, j'échange aussi toujours beaucoup avec Lucien Coq, même par les mails, ça donne aussi cet espace de réécoute de la situation dans un état où on n'est pas directement percuté par la pression qu'exerce le patient, par la pression de ses pressions, de ses demandes, Et cette distance est absolument nécessaire. On ne peut pas travailler qu'en séance.
Comment le docteur Lucien Coq utilise sa pratique psychanalytique pour la rendre participative? Elle nous parle de qui il est, de son amitié et de leur relation professionnelle.
Il m'arrivait de lui envoyer un patient qui pouvait être bloqué sur un point et pour introduire un autre regard, un autre mouvement, et ça, c'était il y a très longtemps, on avait commencé à faire ça de temps en temps, et puis on l'a plus systématisé il y a peut-être une dizaine d'années, je ne saurais pas trop bien situer.
Et puis je lui demande si elle pourrait me parler d'un suivi en particulier, quelque chose qui viendrait illustrer tout ça. Et là, elle me parle d'Amanda.
C'était une personne que je recevais depuis déjà des années, il y avait un travail qui était fait, une confiance, mais je sentais qu'il y avait certains points d'impasse, des piétinements, et qu'il y avait une nécessité d'autre chose. Et donc j'avais comme l'intuition et la conviction qu'il fallait innover, essayer quelque chose. Donc, ça part d'un acte d'envie et de volonté, parce que c'est quand même bousculer une certaine pratique, une certaine routine. Donc il fallait comme remettre en mouvement, en vie, par une autre écoute. Et cette idée s'est imposée de permettre à cette personne, si elle l'acceptait, deux espaces qui se sont donc alternés. Au départ, c'était peut-être une fois par mois, puis ensuite c'était une séance. Ici, une séance chez Lucien Coq, et ça supposait une vraie relation de confiance entre les thérapeutes. un vrai acte d'envie, hein, de volonté, et puis une acceptation du patient qui s'appuyait sur sa confiance en moi et la confiance que je faisais à Lucien Coq pour tenter ça. Hein. Et donc c'est là que ont commencé, je pense, les enregistrements des séances.
Ainsi donc, Amanda se rend en alternance chez Lucien Coq et chez Liliane Mittelmann. Deux médecins, deux cabinets, deux univers. Deux personnes différentes qui l'écoutent. Qu'est-ce qui peut pousser une personne en traitement analytique à collaborer de la sorte ? Que pouvait-elle tirer de cette expérience thérapeutique ? Il se trouve qu'elle a accepté de m'en parler.
Oui, allô ?
Oui, Amanda ?
Dans l'épisode qui va suivre, je suis allée la voir.
Oui, c'est Nolwenn. En fait, il y a deux séries d'escaliers, et comme je sais qu'il faut qu'on en monte quelques-uns...
C'est une bonne question. Alors, il faut aller à gauche, à l'escalier quand vous rentrez.
Eh bien, nous avons bien fait d'appeler.
Exactement, c'est ce que vous faites.